Combien d'habitants sont concernés par ce territoire? Tenant compte des dernières fusions gardoises avec le Grand Avignon, 186 656 habitants et 73 000 habitants dans le Gard-Rhodanien, 25 194 habitants pour la communauté de communes du Pont du Gard, soit au total 284 851 habitants concernés directement par l'ouverture des gares gardoises. Il est à noter un flux important routier quotidien dans le sens Avignon-Lune et dans le sens nord-sud vers les différents bassins d'emploi du Gard-Rhodanien. Où en est le projet à ce jour? Le projet de réouverture voyageurs a fait l'objet d'un protocole d'intention politique en 2008, validé par les trois régions. Des financements ont été engagés pour les études préliminaires techniques et financières sur la base d'un projet RFF, après un premier train de démonstration en janvier 2010. Les études préliminaires s'élèvent à hauteur de 800 000 euros pour la région Languedoc-Roussillon. Une réactualisation des études financières et des nouvelles applications techniques ont été présentées par RFF en juillet 2014, notamment pour le franchissement des voies pour les personnes à mobilité réduite et 12 gares du parcours. En juin 2015, la région Rhône-Alpes a voté dans le cadre du volet territorial à choix du CPER la réouverture de l'A3 en 2017 de Valence à Avignon, avec une enveloppe budgétaire de 20 millions d'euros, 10 millions pris en charge par la région et 10 millions par l'État. Ensuite, en octobre 2015, il a voté l'étude par la SNCF de plusieurs scénarios de faisabilité. C'est donc un engagement majeur qui a été pris et que la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes doit tenir. Quelles sont les attentes des populations? Notre analyse se fonde sur les diverses actions que notre association a lancées ou initiées. Des réunions publiques, des rassemblements dans les gares, des pétitions, 5 000 plus 4 000 pétitions ont été remises à la région MPLR. Les rencontres politiques, les rencontres argumentées avec les présidents d'agglomération se sont multipliées, qui ont donné lieu à des délibérations.
Raccourcissez un tout petit peu. Votre intervention est parfaite pour les interventions à mettre sur le site, mais pour une réunion publique.
Je la mettrai sur le site et je vais arriver directement à l'interpellation de la région.
Merci.
Donc merci pour ces états généraux qui nous donnent la parole, précisément au nom de tous les adhérents. Conclusion. Étant donné le contexte de tension avec la SNCF, la nouvelle majorité en Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être tentée de ne pas réaliser l'engagement pris par la présidente, c'est ce que je viens de dire. La décision de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon d'emboîter le pas au vote de Rhône-Alpes de 2015 serait un signal fort pour respecter les engagements pris. Nous ne doutons pas que le consens conduira à poursuivre le projet. Dans le cas contraire, la liaison Ardèche-Grand-Avignon pourrait exister sans desservir les gares du Gard. Cette situation nous semble impensable. Nous sommes donc à un moment historique où le positionnement de la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon est décisif pour réaliser un projet majeur pour l'avenir des populations gardoises et ardéchoises et pour des enjeux écologiques, économiques et sociaux.
Merci. Merci d'avoir accepté la projet. Vous pouvez voir l'ensemble de vos contributions sur le site internet où elle sera disponible pour tout le monde, puisque les contributions sont transparentes et sont accessibles à tout le monde. On va aller un peu plus loin dans la salle.
Oui. Oui, Jérôme Pedro, maire de Romoulet, vice-président de l'association, on vient de parler de Rennes Pastorie. Évidemment, je partage ce qui vient d'être dit. Je voudrais simplement rajouter un argument qui milite pour l'ouverture de cette rive droite en TER, c'est la proximité du Pont du Gard. Le site du Pont du Gard se trouve à 3 km de la gare de Romoulet. Actuellement, les touristes, il y en a beaucoup sur le site du Pont du Gard, mais en voiture ou en bus, les touristes qui pourraient venir en train, sont actuellement, c'est par contre combattant, parce qu'ils arrivent soit à Avignon, soit à Nîmes, et après le tout trafic sur cette route, c'est très compliqué pour se rendre au site du Pont du Gard. Donc cet argument, je pense, est très très fort pour le développement touristique de la région.
Merci.
Jérôme Bourdon, syndicat CGT du cheminot à Nîmes. Je vais essayer de rester dans le sujet, contrairement à d'autres. Sur la tarification, puisqu'on parle des TER, la tarification, le billet à l'euro, nous nous positionnons un petit peu différemment de ce qui est pratiqué actuellement. Nous posons simplement la question. Est-il normal qu'un usager paye 1 euro pour faire 1 km ou 50 km? Est-il normal qu'un usager, qu'il soit SDF ou milliardaire, paye le même prix? Est-ce ça réellement un service public? Le service public, c'est je finance en fonction de mes moyens et on reçoit en fonction de ses besoins. Est-ce que ça, c'est un véritable choix de société? C'est une question qui doit être posée et débattue dans la future progression de TER. La deuxième chose, la complémentarité avec les autocars. Est-il normal que chaque matin, au Gros du Roi ou ailleurs, un bus et un train partent à la même heure, desservent les mêmes points, arrivent à la même gare, en parallèle? Ne faudrait-il pas réorganiser le service de bus du conseil départemental? Mais je sais qu'après on est dans des affrontements politiques. Réorganiser le service de bus départemental afin qu'il desserve de manière dite perpendiculaire aux voies ferrées pour irriguer et permettre l'accès aux trains, aux régions et aux territoires qui ne sont pas aménagés. Voilà des petites questions. Je reviendrai sur d'autres sujets quand les thèmes sont en ordre. Merci.
Merci.
D'abord, je pense que c'est une très bonne initiative de la part de la région de concerter. Donc je vais essayer de me tenir au sujet et d'aborder quelques points. La question de la complémentarité qui vient d'être abordée entre, par exemple, la route et le rail me semble une question essentielle. Il y a un certain nombre d'axes qui ont été cités, comme la rive droite du Rhône, mais on pourrait parler dans les Bessèges. Et comme exemple, la ligne à Roubaix, comme Nîmes, je dirais le Vigan, enfin, ces questions sont posées. Et voilà, problématique. La ligne à les Bessèges, les financements sont là. Tout le monde est d'accord. Et aujourd'hui, il y a des blocages pour la réalisation de ce projet et la réactivation de cette ligne. C'est un enjeu d'aménagement du territoire. Je pense que la région a un rôle important à jouer pour entraîner la SNCF et la RFF pour s'engager sur ce projet-là. Deuxièmement, je partage l'idée de la complémentarité rail-route, y compris l'harmonisation en matière de coûts et de tarifs. Quand l'SBC, il y avait pour le train aujourd'hui, il y avait plus une concurrence en avant. Je pense qu'il y a aussi des nouveaux espaces à dégager en termes d'accès. Je pense au lycée d'Alès, Jean-Baptiste Dumas, où ça soulagerait beaucoup de problématiques en matière de transport urbain. L'autre élément que je voulais également citer, c'est, je fais un petit décroché, je sors un peu des trains régionaux, les trains déviés du territoire. Le CVE, c'est un véritable enjeu qui concerne aussi notre région, qui a été déclassé, je le rappelle, le train déviés du territoire, puisque la région PACA, le train s'arrête à Nîmes, ce qui est un enjeu de son financement, un décrochage de la SNCF, de la RFR sur le financement à terme, ce qui veut donc dire on renvoie aux régions et qui poserait d'énormes problèmes financiers. Je veux insister sur cette question parce que jusqu'à Clermont-Ferrand, encore plus loin, on est mobilisé sur ce sujet, ça me semble important. Autre point que je voulais également aborder là aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là, c'est le transfert programmé au 1er janvier 2017 pour le transport urbain, interurbain en septembre, de ce qui relève aujourd'hui des compétences du Conseil général. Si on veut harmoniser les coûts, les tarifs, si on veut vraiment une complémentarité, il y a un syndicat départemental qui est en train de se mettre en route, aussi. Il soulève beaucoup de débats. Je pense, compte tenu de la disparité dans les 13 départements de cette région, c'est qu'on laisse, la région a le pouvoir, en délégation au département, le soin de continuer de gérer ces dispositifs, parce que c'est un moyen de maintenir les politiques sociales à l'œuvre. Je pense notamment à la gratuité des transports scolaires, qui même, si aujourd'hui il y a le coût d'une carte qui hélas va augmenter, compte tenu du contexte des règlements financiers des collectivités, dont le département, comme toutes les autres collectivités, sont l'objet, va se mettre une question essentielle si on ne veut pas en faire cause, par exemple, eh bien, des acquis, puisque je rappelle que le transport pour le département du Gard par élève sont du jour réel et autour de 972 euros ce jour. Donc, quelques points qui me semblent importants, et importants aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une politique nationale qui s'oppose, je dirais, aux trains régionaux, parce qu'il y a une menace de fermeture de ligne dans le cadre de la transition européenne de 7 000 à 11 000 km de ligne, et c'est important que les régions eh bien, participent de cet effort, et l'autre collectivité, puisque le conseil départemental du Gard en son temps, et je ne m'en demanderai pas, a compris financer de façon symbolique, il partage une volonté politique, le rebroussement de Courfeyrac est un élément important pour continuer de revitaliser cette politique.
Merci beaucoup. Je crois qu'il y a une intervention là-bas, au fond à droite.
Oui, bonjour. Je suis Dominique Herman d'Ensemble Garde, membre du Front de Gauche. Nous sommes bien sûr heureux de l'organisation de ce débat qui se place dans le cadre des états généraux du rallye de l'intermodalité. C'était une exigence de la liste que nous avons soutenue aux élections régionales du monde. Mais ce n'est pas le premier débat. Je voudrais rappeler un débat qui s'était tenu, notamment dans la région alésienne, dont je fais partie, à l'Est, à l'Essèche, etc., en 2009-2010. Et déjà, nous constations que les financements exorbitants consentis par la région pour les lignes nouvelles de TGV, et évidemment comme les budgets ne sont pas extensibles, et bien presque rien n'était pour rénover les lignes existantes. En 2009-2010, nous disions la ligne à l'ex-Bessèges, elle n'est pas en bon état, elle continue à se dégrader. Je ne vais pas reprendre, Jean-Michel Chaud vient de le dire, elle est maintenant complètement fermée. Le Cévenol, vous connaissez également la situation. Donc, nous voilà pour ce nouveau débat un moment stratégique très important. Plusieurs personnes m'ont dit, nous pouvons infléchir, mais à condition de prendre au moins trois décisions. Parce qu'il faut faire des choix, avec le même budget peut-être, il faut faire des choix. Premièrement, réduire le tout TGV et choisir l'option qui sera la moins chère. Avec l'argent, faire arriver également les TGV dans les villes, à commencer par la ville de Nîmes et la ville de Montpellier, et supprimer les autres. Donc, il y a d'autres possibilités possibles, et également, il faut créer des gares. Moi, j'habite dans un village, Bézénov, où, normalement, une gare devrait être prévue sur la ligne Nîmes-Alès. Le TGV, si vous voulez, le tout TGV, qu'est-ce qui nous empêche de faire? Un Cévenol qui, à l'heure actuelle, quand vous demandez à aller à Clermont-Ferrand, bien évidemment, on vous dit de passer d'Alès à Nîmes, de Nîmes à Lyon, de Lyon, éventuellement, selon l'endroit où vous allez en Auvergne, au Puy ou à Clermont-Ferrand. Et c'est absolument inadmissible. Nous pensons qu'il est possible, avec un train pendulaire, de faire qu'un Cévenol rejoigne Clermont en 3h30, 3h45. Et ça, c'est une optique qui est particulièrement importante. Non, nous ne sommes pas des vaches pour regarder passer les trains et faire en sorte de gagner un quart d'heure ou 20 minutes sur Paris-Barcelone. Pour finir, nous pouvons nous servir de ce débat, mais effectivement, nous avons confiance dans la nouvelle politique que la région va essayer de mener, mais cette confiance, elle sera certainement liée aux résultats et attention à l'inertie et au fait de reprendre encore les mêmes travers, c'est-à-dire à nouveau de tout dégeler. Il faut affirmer l'alternative de manière globale. Merci.
Merci beaucoup. On va prendre une dernière question pour ce premier débat. Peut-être que je suis là-bas. Oui.
Merci, bonsoir. Laurent Pélissier, je suis maire de Saint-Laurent-des-Mouzes et président de la communauté communautaire de Clermont. Donc j'interviens pour le secteur sud-gardois essentiellement sur la ligne Nîmes-le-Gaudroy et je partage les propos qui ont été tenus sur le caractère concurrentiel qui existe entre deux autorités de transport, notamment sur la liaison Nîmes-le-Gaudroy. Mais également, vous dire les difficultés que peuvent avoir les personnes à se rendre dans des conditions acceptables du Gard dans les roues. Je pense qu'il faut qu'on trouve les conditions nécessaires d'une liaison à travers des gares comme celle de Vergès, qui me semble plus accessible que celle de Lunel, pour permettre aux personnes qui se trouvent dans le sud du département de rejoindre Montpellier. La liaison de Nîmes est assez facile, mais la liaison de Montpellier est excessivement délicate. Pour cela, sur cette ligne Nîmes-le-Gaudroy, que faut-il faire? Il faut la moderniser. Les lecteurs attentifs du Midi Libre ce matin se rendaient compte que la question, non pas du tout TGV, mais au moins d'un TGV juste sur le littoral, dans le cadre du développement économique, pourrait être quelque chose d'essentiel et d'important. Déplacer des gares, éventuellement, ou en recréer. Je suis maire d'une commune où lorsque la départementale 979 a été doublée, la gare a disparu. Donc c'est si bien que maintenant, il y a une toute petite guitoune où effectivement, il n'y a pas la télé ni l'internet. elle est coupée par une deux fois de voie et quasiment plus personne ne prend le train, les quatre trains qu'il y a actuellement entre Lyon et Paris. Donc je crois véritablement à l'avenir de ce mode de transport, à la complémentarité et à l'intermodalité.
Merci. On va peut-être prendre monsieur et puis madame là-bas. Puis on passera au thème suivant. Si vraiment votre question était très importante, vous n'avez pas pu la faire, glissez-la dans un des débats successifs qui suivent. Vous l'avez déjà eu.
J'ai entendu hier ex-cheminot associatif et syndicaliste retraité. Je dis tout de suite qu'il n'y a pas de dissonance entre ces trois esprits. Voilà, pour ma part, je souhaite que la région, autorité organisatrice, fasse respecter sa volonté politique avec les établissements publics, SNCF, Mobilité, SNCF, Réseau, et s'émancipe de la gestion libérale de ces établissements. Je m'excuse auprès des représentants de SNCF que j'ai repérés dans la salle. Et voilà, il est inadmissible, par exemple, que la SNCF ferme ses guichets sur Clermont-Mime, alors que l'agent qui effectuait la vente des billets, toujours présent dans la gare, occupé seulement aux questions de sécurité des circulations. Il est inadmissible que SNCF Réseau ne tienne pas compte de la régularité du service et de sa continuité, qu'il fasse ses travaux en fermant les lignes. Ces pratiques sont intolérables pour les usagers, pour les trains de la vie quotidienne. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Allez, une dernière là-bas au fond. Madame.
Sybille Jeannequin, citoyenne limoise, très attachée au train du quotidien, donc au TER. Et je voulais vous poser une question très très courte. Pour nous permettre à tous de mieux comprendre les enjeux et afin que de bonnes décisions soient prises, est-ce qu'il est possible de connaître le coût des lignes à moderniser et des lignes à rouvrir pour faire une comparaison avec les travaux pharaoniques des nouvelles gares qui ne vont pas servir à grand-chose, qui vont être ouvertes? Donc, est-ce qu'il est possible d'avoir le coût de ces lignes à moderniser, de ces lignes à ouvrir qui sont, à mon avis, indispensables?
Merci beaucoup. Bon, on va clore ce premier débat sur les trains régionaux, sur les TER et les autocars. Il m'est difficile de répondre en direct aux questions qui ont été évoquées, mais toutes ont été notées et nous serons très attentifs à ce que des éléments de réponse, des éléments factuels soient disponibles sur le site internet des États généraux dans les semaines qui viennent. Donc soyez assurés qu'on fera. Là, je ne peux pas répondre, mais bon, la dernière question paraît très pertinente. C'est vrai que le budget global qu'on va pouvoir investir dans les transports ferroviaires sur les 20 prochaines années n'est pas illimité. Il y a des choix à faire. Pour éclairer la décision, il faut avoir les coûts comparatifs des différentes options. Donc je retiens ça et aussi beaucoup d'autres suggestions qui ont été faites. Je vous propose de passer au deuxième thème, les trains d'équilibre du territoire, je crois. Jean-Luc va prendre le micro.
Oui, donc sur cette deuxième thématique, ça a été un tout petit peu abordé tout à l'heure quand on a évoqué la question du 7-Up, mais il y a la question en général des trains du territoire, la question de ce qu'on a appelé les intercités, de ces trains qui sont des trains de grande ligne, et donc l'articulation avec les éléments à la fois pour le département, mais au-delà pour l'ensemble de la région. C'est aussi dans cette thématique qu'il y a la question des trains de nuit, ce qui nous permet de repréciser et de donner l'information pour celles et ceux qui n'auraient pas eu. Il y a eu une intervention de la présidente Delga, et j'en ai fait aussi de ma part en tant que vice-président, pour dénoncer les remises en cause des trains de nuit et pour rappeler qu'il y avait le besoin que notre région soit reliée à Paris pas en étant dans une démarche de se positionner vis-à-vis de Paris, mais tout simplement parce que c'est important qu'il y ait des trains qui permettent la liaison avec Paris et avec la volonté de pouvoir maintenir cette position et qu'un certain nombre de gares, dont évidemment celle de Nîmes, puissent être reliées par des trains de grande ligne. Donc sur cette partie-là, les trains des débuts de territoire qui souhaitent intervenir peut-être en prolongement de ce qui a été évoqué tout à l'heure sur le Cévenol, est-ce qu'il y a des propositions?
Oui, Dominique Le Plumier, le conseiller municipal de Nîmes-Avignon. Moi, je voudrais aborder les questions d'une autre manière, un petit peu, qui n'est peut-être pas relevé ici, c'est que le train n'est pas qu'un moyen de transport, il est aussi un moyen de développement économique. Et la réouverture de la République du Rhône, par exemple, c'est une façade européenne, économique, avec la vallée du Rhône et l'arc latin Gênes-Barcelone qui se trouve à Nîmes. On a dans ce secteur donc des potentialités touristiques énormes. Et sans oublier aussi qu'on a un secteur d'activité qui est entre autres le nucléaire. Et aussi dans ce même trajet, on a une voie navigable remarquable qui est le Rhône. Et un port, qui est un port de l'Ardoise, qui pourrait aussi être ouvert. Je crois que tout ceci se tient, y compris les entreprises de ce secteur. Les entrepreneurs réclament les moyens de transport. Les entreprises qui veulent s'installer, elles regardent ça, s'il y a des équipements publics, s'il y a des moyens de transport. Et je crois que de ce point de vue, pour terminer très court, la réouverture de la ligne 3 est un atout majeur d'une porte sur l'Europe.
Sur, sur l'équilibre du territoire, on a été évoqué. Vas-y, vas-y. Non, vas-y.
Oui, j'avais Sergent Antin, je suis le représentant du personnel et salarié des transports en commun à Nîmes. J'avais une question qui faisait le lien entre la précédente et celle-ci, qui est relative au changement récent, on va dire institutionnel, avec l'arrivée de la loi NOTRe et l'arrivée de la loi Macron. Et qui bouscule à la fois les trains d'équilibre du territoire et qui bouscule les DER. Alors, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, vous allez prendre la compétence en plus des DER des transports départementaux, donc vous êtes l'autorité organisatrice des 13 départements qui composent la région. Alors, ma première question, c'est allez-vous avoir une réflexion de mise en harmonie, on va dire, des politiques menées sur les transports départementaux, de façon à, ça a été souligné déjà plusieurs fois, à éviter qu'ils soient en concurrence avec les TER, ça c'est la première chose, et surtout qu'il y ait une harmonisation, on va dire, des politiques tarifaires, de la vision, on va dire, de l'organisation de ces transports à l'échelle régionale. Ça, c'est la première question, et j'ai envie de dire que si la région monte en compétence harmonieuse sur ce sujet-là, on peut imaginer des économies d'échelle et une complémentarité plus rationnelle entre les deux, sans effet de concurrence politique qu'on a pu déplorer dans le précédent schéma institutionnel. Pour le train d'équilibre du territoire, c'est un petit peu différent. On sent bien que tout le monde s'en désintéresse. L'État se désengage de plus en plus, il restera bientôt plus de train de nuit, ce qu'il en reste. Arriver à avoir des grandes transversales sur des itinéraires un peu denses, ça relève de la gageure, on est en train de tronçonner, il n'y aura bientôt plus rien. Évidemment, pour ce qui nous concerne, à Nîmes, c'est Nîmes, clairement Paris, le Cévenol que tout le monde a dans l'esprit, mais il y a aussi Béziers, Neussargues, Paris, etc. Enfin, il y a un certain nombre de liaisons dans la grande région qui sont concernées par cette question. Et là, je pense que l'arrivée des autocars Macron va leur porter le coup de grâce. Et d'ailleurs, on peut se poser aussi la question, et c'est en lien avec le thème précédent là aussi, est-ce que ça ne va pas porter le coup de grâce aussi à certaines liaisons régionales par autocar organisées de manière classique? Voilà. Alors, dans ce cadre-là, quelle est la réflexion de la région pour à la fois soutenir autant qu'elle peut la vision nationale, de liaison nationale qui est portée par les trains d'équilibre du territoire, et en même temps des liaisons régionales qui soient soutenables financièrement dans un cadre institutionnel profondément bouleversé.
Une autre demande.
Toujours sur la question du Cévenol. ce qui me semblerait important. Alors, je suis membre de cette association d'élus qui se bat pour le développement du secteur. Je faisais état tout à l'heure du fait que la région PACA n'est plus aujourd'hui concernée puisque le train s'arrête à Nîmes. Or, si j'ai bien entendu, concernant les engagements de l'État sur ces trains des territoires, on m'a demandé est-ce que trois régions organisatrices accolées pour pouvoir bénéficier de ces financements d'État qui entretiennent ces lignes aujourd'hui. Le risque est grand donc de voir en renvoi à la région le souhait d'assurer l'entretien de cet espace. Ça, c'est le premier point. Donc, important de se battre et à partir de là, peut-être, de pouvoir se connecter avec l'ensemble des régions, c'est-à-dire la Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, et même si on ne va pas à Toulouse, ça concerne la région PACA, mais ça concerne aussi la région Auvergne, y compris en termes de choix, d'orientation, d'investissement, de complémentarité, parce que jusqu'ici, beaucoup de choses sont faites, pas forcément fait, mais chacun un petit peu dans son coin. Et ça ne peut pas être seulement l'association qui fasse le relais. Je pense qu'il y a besoin d'une coopération entre régions de ce point de vue. Le deuxième élément en lien avec ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est que ces axes sont importants, même si c'est un axe secondaire par rapport au TGV, qui en soi, à mon avis, a toute sa raison d'être. Je ne l'oppose pas, mais en complémentarité, c'est aussi eh bien, l'ouverture des gares, notamment. Il y a une bagarre qui a été menée, notamment à Villefort, à Rancombe, chez Nolac, notamment. Mais ça me semble être un élément important aussi à soutenir, parce que c'est un moyen d'alimenter aussi ces taxes, comme d'ailleurs l'ouverture d'un esprit sèche qui alimenterait aussi ce trait d'équilibre du territoire et répondrait à un besoin de la population et un aménagement du territoire dans les secteurs qui ont grandement besoin.
Sur cette question des trains d'équilibre du territoire, et avant de passer au sujet de la grande ligne, juste quelques éléments d'information sur ce qui a déjà été fait par la présidente Delia et par moi-même sur, d'une part, les positions prises vis-à-vis de la mission qui a été confiée par le ministre au préfet Philizot, qui est chargé de faire un certain nombre de propositions, il était chargé de rendre un rapport pour la fin du mois d'avril, il semble que ce soit maintenant plutôt pour le mois de mai, et nous avons eu l'occasion de donner un certain nombre d'éléments d'information et de positionnement. D'abord pour dire que nous ne sommes pas une région demandeuse du transfert des trains d'équilibre du territoire à la région. Nous ne sommes pas dans cette posture-là. Nous tenons à le dire parce qu'il semble que des régions disent le contraire, donc c'est important pour nous de le préciser. Et nous ne sommes pas dans cette position-là, en particulier par rapport à l'argument qui vient d'être évoqué, c'est que nous tenons à ce qu'il y ait une liaison vis-à-vis de Paris pour toutes les liaisons verticales, et que nous tenons à ce que, concernant les liaisons horizontales, il y ait des liaisons qui soient interrégionales. Et il n'est pas question pour nous que les trains d'équilibre du territoire se réduisent, même si la région est grande, au périmètre de notre région. Il est important que la liaison, que ce soit celle de Nîmes aille bien jusqu'à Paris ou celle de Béziers aille bien aussi jusqu'à Paris, et il n'est pas question de considérer que l'arrêt à Clermont-Ferrand, le terminus à Clermont-Ferrand serait une solution. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que nous tenons à ce qu'il y ait une desserte en train d'équilibre du territoire qui soit harmonieuse pour notre région et qui soit maintenue, voire développée. Nous le posons à la fois sur ces liaisons-là, mais aussi sur la liaison entre Montpellier et Toulouse. Il n'est pas question sur la liaison entre Montpellier et Toulouse que, au motif de réorganisation, il y ait au final moins de liaisons qui soient effectuées au motif que on diminuerait l'intercité, charge à la région de le remplacer par un TER ou une hypothétique possibilité d'un passage d'un TGV, mais avec des gares qui ne seraient pas desservies systématiquement, en tout cas pour les gares qui aujourd'hui sont desservies. Donc nous avons besoin de ce maillage du territoire par les trains d'équilibre du territoire. De la même façon, nous avons besoin de trains de nuit pour l'ensemble de la région, parce que nous sommes une des régions, voire la région dont l'essentiel est le plus éloigné en termes de temps vis-à-vis de la capitale, puisque c'est pas simplement une question géographique, c'est aussi une question question de liaison en temps, et donc il est indispensable à la fois d'avoir cet individu du territoire et à la fois d'avoir à l'état de nuit des propositions qui ont été faites. Et nous savons qu'il y a une proposition qui est en discussion concernant les trains du territoire du Massif central. Nous sommes en train d'étudier, mais plutôt avec un regard très favorable, parce qu'il est important d'envisager d'avoir rapidement ces propositions concernant les trains du territoire. Il n'est pas question pour nous de se désintéresser ou de considérer que ça ne nous regarde pas. Nous sommes une région qui a besoin de ces trains grande ligne en complémentarité avec ce qui s'est fait, et la présidente a eu l'occasion jeudi dernier de redire que c'est bien de trains dont nous avons besoin et que ça ne peut pas être la perspective d'autocars qui répondent à ces besoins-là. Dernière chose par rapport à ce qui a été évoqué, et puis je propose qu'on passe au troisième thème sur les lignes à grande vitesse, c'est concernant l'évolution des compétences de la région, puisque la question a été évoquée. Là aussi, juste en termes d'information, puisque les choix ne sont pas encore faits, hein, bien entendu, sinon il n'y aurait pas ces états généraux du rail intermodalité, mais juste pour confirmer que la présidente Elga va s'adresser rapidement aux services, par l'intermédiaire évidemment des conseils départementaux, aux services qui aujourd'hui sont en charge de ce travail dans les conseils départementaux, pour confirmer qu'il y aura évidemment, la région assumera sa responsabilité puisque la loi l'a confié, mais qu'il n'est pas question de tout transformer au 1er janvier 2017 pour les transports interurbains, au 1er septembre 2017 pour les transports scolaires. Il y a aujourd'hui des situations très différentes. Ça mérite encore d'être totalement vérifié, mais il semble que sur les 13 départements, nous soyons à 11 situations différentes et modes d'organisation différents. Donc chacun comprendra bien qu'on ne va pas harmoniser en un seul coup ces 11 modes différents à quelques semaines ou quelques mois de la date. Donc il y aura forcément un temps transitoire, et il y aura un temps de concertation, de négociation. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il y aura à terme une politique régionale du transport interurbain et du transport scolaire, parce que la loi a confié cette compétence et que la collectivité ne occupera pas devant cette responsabilité. Mais bien évidemment, ça ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Il va falloir prendre le temps de la concertation et de l'harmonisation concernant ces compétences, mais aussi de l'articulation. Et c'est pour ça que nous avons tenu à ce que ces états généraux soient aussi ceux de l'intermodalité, pour qu'on soit bien sur l'articulation entre les différents modes de transport. Et comme ça a été évoqué tout à l'heure, il faut viser cette articulation et tourner le dos à la concurrence ou à la mise en concurrence entre les différents modes de transport. Je propose qu'on passe au troisième sujet.
Merci. Donc on va discuter maintenant des lignes à grande vitesse, des trains à grande vitesse. C'est un sujet qui concerne fortement la région. Donc, qui veut commencer à intervenir sur ce thème? Alors, je vais voir ici.
Ça va être paradoxal. Je m'appelle Augustin Dogarella. Je représente ici le patrimoine, pas très loin de nous, au dépôt de Nîmes. Il y a un site qui s'appelle le site du train, ex-musée du cheminot. Et là, au moment où vous attaquez sur les trains à grande vitesse, je vais juste revenir sur l'équilibre du territoire. En termes de patrimoine aujourd'hui, quand un train du patrimoine roule, il paye un sillon à RFF. De la même manière que ce qui veut dire aujourd'hui, messieurs, que si un train du patrimoine descend de Clermont-Ferrand à Nîmes, moi je peux dire aujourd'hui, mesdames et messieurs, que 500 personnes paieront leur billet et ça ne coûtera rien à la collectivité. Ça doit nous interpeller. Ça veut dire que les trains du patrimoine, ils peuvent aider à maintenir l'axe Sévenol en service. Premier point. Deuxième point, messieurs, là, vous venez avec moi, je vous emmène là au dépôt de Nîmes, on prend un autorail, on monte dedans, et 25 minutes après, nous sommes à 500 mètres du pont du Gard. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand j'arrive des États-Unis, on nous fait tout un pataquès sur le pont du Gard, sur ce qu'on veut en faire. Moi, je dis qu'aujourd'hui, d'équilibre du territoire, c'est aussi le peuple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui arrive des États-Unis, de Londres, ou de l'autre bout du monde, et qui veut aller au Portugal, il faut qu'il prenne un taxi à l'heure. Moi, ce que je vous propose, c'est que nous ayons une réflexion commune. On prend un autorail, peut-être pas SNCF, peut-être pas patrimoine, peut-être une articulation. Mais en attendant aujourd'hui, mesdames, messieurs, on peut aller au Portugal, à 50 mètres du Portugal, en train. Et on peut monter à Clermont-Ferrand, tout voyage payé, sans ça ne coûte rien à la collectivité, et en maintenant l'axe Cévenol en service. Très important.
Merci beaucoup.
Bonjour, Marie-Pierre Mercier, citoyenne. Vous venez de dire ligne à grande vitesse. Or, le contournement Nîmes-Montpellier est un contournement de voie nouvelle, puisqu'il accepte aussi bien les TGV que les TER, que les lignes de fret, que les trains de fret. Donc, je voudrais savoir, parce que là, on parle beaucoup de voyageurs, quelle est l'ambition de la région pour favoriser le fret dans la région ?
Merci beaucoup. Je ne sais pas si je ne peux pas improviser une réponse sur cette volonté. La volonté politique, elle est très forte. On sait qu'on a 18 000 camions qui passent tous les jours sur la l'autoroute, la Languedocienne, et que le fret est une option pour remplacer ces camions et les mettre sur le rail. Ça dépend évidemment de la ligne historique du littoral aujourd'hui, n'est pas capable d'absorber ça. Elle est en très mauvais état et saturée sur certains tronçons. Donc il y a besoin d'une ligne nouvelle, et en tout cas, nous sommes favorables à une ligne mixte, fret, voyageurs, de bout en bout, jusqu'à Perpignan, de manière à ce qu'on ait enfin un trajet complet pour les camions sur rail, depuis la frontière espagnole jusqu'au nord de la France. Donc de ce point de vue-là, la volonté y est. Il faudra être vigilant au moment de l'enquête publique sur la nouvelle ligne qui va ouvrir à la fin de l'année, car dans le projet actuel, la mixité fret voyageurs de du tronçon Béziers-Perpignan n'est pas acquise, elle n'est même pas proposée. Donc c'est quelque chose sur lequel je vous invite à être vigilant.
Vincent Bourget, responsable du Parti communiste dans le Gard, et puis membre d'un collectif qui vient de se monter pour la défense de la desserte de la gare TGV de Nîmes-Centre. Voilà, je pense que sur la question du contournement Nîmes-Montpellier, un large consensus se fait, notamment par le fait que cette ligne est une ligne mixte et que de ce fait, elle va favoriser, en tout cas on l'espère, le fret et dégager ainsi des lignes, des voies, des sillons sur la ligne classique pour permettre la desserte notamment de la gare de Nîmes-Centre. Aujourd'hui, l'agglomération a proposé une option, puisque ce n'est encore qu'une option, à savoir la construction d'une gare nouvelle à Mandieu. Avec tout ce qu'on a dit dans la première partie sur les besoins des trains du quotidien, des besoins des usagers du rail, où qu'ils soient. Cette question de la gare de Manuel peut paraître assez surprenante, alors que la gare de Nîmes-Centre est à la fois équipée pour les années à venir, que le contournement va permettre de la libérer encore plus, que son raccordement est possible à Saint-Bresse, que le raccordement à la ligne classique est possible à Saint-Bresse sur la ligne nouvelle, et ça permet de régler aussi de voir brûler la question de la ligne du Bois-du-Roi. Donc je crois que, et puis en plus de ça, cette question-là des gares TGV en centre-ville est une question extrêmement moderne. Par exemple, à Toulouse, c'est ce qui se fait. Les villes de moyenne envergure, on leur a forcé des gares qu'on appelle aujourd'hui des trams, mais on sait bien que si on veut que les passagers descendent dans une gare, il faut qu'il y ait une activité, une intermodalité. Tout ça est présent sur la gare de Nîmes-Centre. Donc nous lançons... Et on peut se satisfaire de ces états généraux du rail qui permettent de mettre tous les sujets sur la table. Nous lançons dans un collectif très pluraliste une action pour défendre cette gare de Nîmes-Centre, parce que aujourd'hui la gare de Manduel n'est pas un choix très pertinent ni pour les usagers, ni pour l'écologie, ni pour les finances des collectivités qui ont été suffisamment attaquées ces derniers temps pour qu'en plus on ne rajoute pas des choix qui sont pas forcément frappés du saut du bon sens. Nous verrons bien dans 20 ou 30 ans si le besoin se fait sentir.
faire une gare TGV nouvelle. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous devons, du coup, largement faire participer la population pour qu'on sente que la volonté des populations, c'est de prendre les TGV dans les centres des villes et d'être utilisés comme ça. Merci.
Merci.
Je crois que c'est sur les TGV, là, c'est pas sur les gares. Je reviendrai tout à l'heure sur ce que vient de dire monsieur. Moi, donc monsieur Proust, premier adjoint David Denis, député européen. Sur les TGV, je regrette le choix politique, ou en tout cas le déclassement qui a été fait de supprimer dans un premier temps la ligne entre Montpellier et Perpignan au profit de Bordeaux-Toulouse. Manque de cohérence et. Au moment où les finances des collectivités locales sont mises à mal, où tout le monde recherche des financements, je rappelle simplement que la ligne entre Montpellier et Perpignan est placée sur un corridor ferroviaire européen. Et qui dit corridor ferroviaire européen dit financement européen. Et pas, c'est pas une mince affaire, parce qu'on va jusqu'à un financement de 60%. Et c'est là où je dis qu'il y a un problème de conception, parce que qui demain va financer Bordeaux-Toulouse, à part l'État, à part les régions. Et deuxièmement, à l'époque où le gouvernement a reconstruit, rebâti des nouvelles régions, en l'occurrence Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, je pense qu'il aurait été quand même judicieux de prioriser la liaison interne à l'intérieur de cette nouvelle région, notamment Montpellier et Toulouse. Demain, vous axez Toulouse-Narbonne, vous reprogrammez Montpellier-Perpignan et vous avez quelque chose d'efficace pour l'ensemble de notre région. Donc moi, je sais que le ministre des Transports a réétudié, remis en phase d'étude, et le mot est important, le Montpellier-Perpignan, mais il y a une incohérence totale à ce que l'État français, l'Europe en particulier, et financer cette ligne jusqu'à Montpellier, du côté espagnol jusqu'à Perpignan, en finançant de grandes infrastructures qui aujourd'hui sont déficitaires, puisque la gestion du tunnel, on le sait, pose d'énormes difficultés, parce que justement, nous n'arrivons pas à rentabiliser cette ligne de par ce tronçon manquant entre Montpellier et Perpignan. Donc je demande que Mme Delga, en tant que présidente de région, puisse intervenir et reprogrammer cette ligne par les prioritaires entre Montpellier et Perpignan et on étudie au plus vite le raccordement entre Toulouse et Narbonne, ce qui permettrait d'irriguer efficacement notre région par les d'environnement et d'écologie. Regardez déjà la problématique de l'ensemble de nos conseillers régionaux que nous avons dans le Gard pour se déplacer jusqu'à Perpignan, qu'ils prennent le train ou la voiture, vous n'avez rien en dessous de 2h30, 3h au jour d'aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Au fond de vous.
Merci. Oui, Alain Lorgias, je suis le président du comité de quartier de Missionnaire à Nîmes, mais je suis citoyen lambda de la Côte. Bon, moi je voudrais revenir un peu, bon, je sais que le sujet des gares, ça sera après. Mais quand j'ai entendu monsieur le représentant du Parti communiste dire que dans 25 ans les gares seront peut-être nécessaires, je vais vous raconter une anecdote. J'ai la chance d'aller à une époque, j'allais souvent dans les forums d'INA organisés par le Conseil économique et social. Vous savez bien que le Conseil économique et social donne des avis au gouvernement, c'est la troisième force un peu indirectement de l'État. Et j'ai eu une discussion autour d'une table avec M. Martinan, le premier président de RFF, qui, à l'époque, m'avait expliqué comment la décision de faire une réservation pour la gare de Manduel avait été prise. Ça s'est pris dans l'inauguration en 2002 de la gare d'Avignon. Monsieur Jean-Paul Fournier était à côté de Martinan. Il lui a pris la tête, c'est ce que Monsieur Martinan, le premier décédé, ne pourra pas, peut-être pas justifier, pour qu'il y ait une gare à Manduel. Et Monsieur Martinan a dit textuellement, la gare de Manduel, on va faire une réservation, puis on verra dans 35 ans si vraiment elle est nécessaire. Voilà, en gros, le deuxième président de RFF, hein, au cours de notre forum de l'ENA au Conseil d'Équité Sociale, en a parlé, et vous verrez, quand il y aura l'enquête publique, je mettrai les éléments à l'enquête publique. Voilà.
Merci. Là devant, oui, merci.
Oui, mesdames, messieurs, Johan Gillet, conseiller régional, secrétaire départemental du Front National. Je souhaitais ici parler grande vitesse, et qui dit grande vitesse, dit gare LGV, et je rejoins pardon, le monsieur qui parlait de la gare de Manduel. Et je tenais ici à rappeler la position du Front National concernant cette gare. Nous sommes, nous aussi, pour la défense de la gare de Nîmes-Centre, ça nous apparaît important. Mais nous souhaitons entendre, et nous acceptons d'entendre, qu'il y a des problèmes techniques qui font qu'une gare LGV aujourd'hui est essentielle. Le choix a été fait par les autorités de choisir Manduel. Nous, nous défendons depuis maintenant plusieurs années le choix de Garon, parce que Garon permettait de créer un vrai pôle multimodal. Aujourd'hui, on parle d'un pôle multimodal à Manduel. Vous, comme moi, savons très bien que ce n'est pas le cas. Manduel n'a pas les infrastructures routières nécessaires. Manduel n'a pas l'aéroport que Garon peut offrir à ce pôle multimodal. Et ça nous apparaît important. Donc, il y a eu un choix qui a été fait, et même si la région a annoncé il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, que la gare de Manduel était en suspens, malheureusement, ici nous pouvons le dire, la gare de Manduel a été actée, la gare de Manduel se fera malheureusement, tout a été décidé, la SNCF est d'accord, la RFF est d'accord, la région est plus ou moins d'accord, ça dépend de quel port on est dans la majorité régionale, mais malheureusement, la gare de Manduel va se faire, c'est un triste gâchis parce que Garon offrait non seulement des économies qui ne sont pas de petites économies, parce que tous les spécialistes en la matière avaient chiffré les travaux, tout pouvait se faire avec des prix nettement moins élevés qu'à Manduel. Alors aujourd'hui, nous allons subir cette gare de Manduel qui va avoir bien évidemment des points positifs, hein, c'est indéniable, mais qui va aussi avoir de gros points négatifs pour le territoire de Nîmes Métropole notamment, et nous pouvons le déplorer. Voilà, je tenais ici à rappeler cet avis qui est partagé, je le sais, par un certain nombre de personnes ici, et je souhaitais enfin pour conclure regretter que les élus régionaux des oppositions n'ont pas été invités, à cette soirée. Nous nous sommes invités nous-mêmes parce que nous n'avons pas été conviés. Je constate en revanche que les partis politiques de gauche ont bien un peu été invités, ils sont là nombreux, et je constate surtout qu'il y a très peu, mais trop peu, de citoyens présents ici ce soir, et c'est bien regrettable parce qu'une concertation doit se faire avec les citoyens.
Moi je m'exprime en tant que conseiller régional. Je ne surprends pas en disant que je partage bien peu de choses de ce que vient de dire notre interlocuteur précédent, et dans le sens de la caricature et de la légèreté trahit les positions. On a l'avantage de se trouver ce soir ici à l'invitation de Carole Lemoine. C'est quelque chose d'important parce que la dernière fois que l'on a abordé ici les problèmes de grande vitesse et de gare, c'était en 2009 et c'était dans le cadre de la Commission nationale, donc du débat public, à l'occasion du projet Montpellier-Perpignan. Puis depuis, beaucoup de choses se sont passées. Et quelquefois, les positions changent, ont évolué. Et Carole Delga, présidente de la nouvelle région, a souhaité effectivement qu'elle puisse, à l'occasion de ces états généraux du règne de l'intermodalité, eh bien, se donner le temps d'écouter, de faire le point pour orienter la politique régionale dans un sens de l'aménagement intégré du territoire, et puis aussi certains nous souligner, partant de certains projets, pour développer l'attractivité économique de celui-ci. Alors, moi j'en ai sur certains points, je ne serai pas loin. Je ne vais pas rappeler au député européen Franck Proust, qui a tout aussi d'accompagner la démarche de la présidente de la région pour obtenir le soutien de l'Europe sur le trajet Montpellier-Perpignan, car s'il était, je vais m'excuser, mais on ne peut pas comme cela affirmer il faut se mobiliser, etc. Aujourd'hui, la présidente de la région est intervenue sur le tracé Montpellier-Perpignan. Elle a obtenu que ce tracé soit arrêté, c'est le cas depuis fin mars, et la DUP sera lancée en bien public en 2016. Donc on n'est pas dans de la légèreté, on a quelque chose qui est acté, et Carole Delga est intervenue au plus haut sommet de l'État pour que ce projet soit arrêté et donc lancé. Voilà. Donc reste à l'Europe maintenant à se positionner, et je souhaite que le Conseil européen que vous êtes participe de cette démarche. S'agissant du contournement de Montpellier, de l'énergie de vitesse, je voudrais rappeler tout simplement, parce que des fois on l'oublie au fur et à mesure que les nouveaux projets qui arrivent, c'est qu'il s'agit déjà de quelque chose qui sera unique en France. C'est la première fois qu'on aura une ligne à grande vitesse fret voyageurs. Alors on l'a un peu oublié parce que le débat il est souvent porté sur les voyageurs. N'oublions pas pourquoi on a cherché pendant longtemps à faire ce retournement mixte, et n'oublions pas notamment que l'on a voulu sortir le fret de Nîmes et que l'on a voulu créer les conditions pour qu'effectivement il y ait une libération de sillons importants dans la liaison notamment Montpellier-Nîmes parce qu'elle était complètement saturée. Bon, pour mémoire, s'agissant des gares nouvelles, il y a des questions simples aujourd'hui que la région doit poser à la SNCF, puisque certains projets sont engagés. Alors, la question qu'on ne se dit pas trop ici, qu'on ne se pose pas, c'est quel est le niveau d'engagement des collectivités, c'est-à-dire que vaut aujourd'hui l'engagement, donc la signature de la région en 2012 au bas d'une convention, la signature de la région des collectivités en 2009 au bas d'une convention, et quelles sont éventuellement les capacités à y revenir, à orienter, à changer les choix. Eh bien, il y a peut-être des questions toutes simples aussi à poser à ceux qui aujourd'hui ont engagé des travaux, je pense à Réseau Ferré de France, à la SNCF. Au 1er janvier 2018, quand la gare de la Mongère est censée mourir, combien de TGV passeront à la gare de la Mongère? C'est déjà une réponse intéressante que l'on pourrait obtenir. Et moi, j'attends que la SNCF nous donne une réponse précise à cette question. Dans l'état actuel des choses du projet des engagements financiers, combien de TGV au 1er janvier 2018? Et puis, quelle influence sur les TGV qui seraient trop un jour à la Mongère, sur les TGV qui sont aujourd'hui dans un Nîmes centre? Donc je rappelle bien que l'équilibre aujourd'hui est tel qu'il y a un nombre très important de TGV qui passe à Nîmes-Saint, tout simplement parce qu'il y a des gens qui montent dedans. S'il n'y avait pas de gens qui montent dedans, ça ne s'arrêterait pas. Il ne suffit pas qu'il y ait un pied pour qu'on puisse s'arrêter. Il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de le prendre et pour qui on a permis qu'ils le prennent. Alors ces questions-là, on doit se les poser, et notamment, ça amène Carole Delga à s'interroger sur les liaisons entre les gares centrales et les gares nouvelles. S'il doit y avoir des gares nouvelles, moi je ne réponds pas à cette question maintenant, ce n'est pas mon rôle, mais s'il doit y avoir des gares nouvelles, quelle liaison entre les gares centrales, c'est-à-dire donc la gare de Nîmes-Centre, c'est-à-dire la gare de Saint-Roch, et donc ces gares nouvelles pour favoriser l'intermodalité, favoriser le déplacement dans des populations. Et c'est uniquement, après vous avez entendu partout, parce que, bon, mais moi je sais que Jean-Luc Gibelin et Stéphane Pras auraient mille choses à dire parce qu'ils ont déjà bien commencé à faire le sujet, et c'est uniquement après vous avoir entendu les uns et les autres. On a autant de choses à dire également sur le droit du Rhône qui est un enjeu très important. Il faut que nous allions au bout de ces états généraux, au bout de ces échanges, pour que la région ait capacité à intervenir auprès des Réseaux Ferrés de France, auprès des SNCF, auprès de l'État, auprès des partenaires privés qui sont financièrement engagés, pour voir comment ces choses peuvent évoluer. Et puis, un dernier sujet que je voudrais évoquer, et qui est un sujet ni moins, mais qui est un sujet important, c'est aussi le devenir des stations. On a aujourd'hui, on a parlé des possibilités de gare nouvelle qui étaient évoquées en 2009, le site de Manuel, le site de Campagne, le site de Campagnol. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, sur le site de Campagnol, donc, plusieurs dizaines d'hectares et au-delà, dont sont occupés par la base de travaux, que sur cette base de travaux, les aménagements qui ont été faits pourraient permettre éventuellement de continuer donc à avoir une liaison avec les Nîmes, le Bois du Roi, qu'il y a là-dessus du droit des sols, qu'il y a du très haut débit, qu'il y a donc un enjeu important, qu'il y a un projet donc, qui a été porté par une association nîmoise pendant plusieurs mois sur un grand projet d'intermodalité, qu'il faut aussi qu'on s'interroge donc sur l'avenir de ces infrastructures des stades où les projets sont engagés.
Oui. Oui, j'ai profité. Oui, simplement, Christian Bastide, conseiller départemental du Gard. Donc, après l'intervention de Jean Donald, alors il connaît bien le département du Gard, conseiller régional, mais aussi l'expérience. Il y en a qui travaillent beaucoup sur matière de politique de transport dans notre département. Moi, je voulais venir sur ce sujet-là. Je crois que c'est bien fait. Je crois qu'il faut quand même rappeler que le département du Gard, c'est un des départements qui a financé le projet de ligne à grande vitesse. Nous n'y étions pas obligés. Nous sommes investis à hauteur de 40 millions d'euros. Donc c'est avant tout, je crois aussi, pour aborder des questions, c'est pas que la question de transport, bien évidemment, des usagers, même TGV. Je crois que Jean-Denis a eu besoin de rappeler que ce projet, c'est un projet qui est important parce qu'il va donner une impulsion nouvelle, à la fois avec en ayant des lignes d'émission dégagées, grande vitesse, usagers, et en même temps de pouvoir permettre de transporter des marchandises, et que l'objectif, c'est que d'ici à peu près 10 ans, c'est de doubler le trafic de marchandises. Et je crois que c'est important de souligner, parce qu'on parle, Clini et moi, ils sont habitués à passer leur train le long, notamment des quais, tout le long des ponts, des arches, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de trains de marchandises. Et je crois que les Limois seront toujours attachés à voir passer leur TGV. Et en même temps, le fait de dégager des sillons et d'empêcher de détourner les trains de marchandises, comme je l'ai rappelé, je crois que nous contribuons aussi aux questions environnementales. Parce que là aussi, je crois que c'est important dans les projets de prendre cet aspect dans notre réflexion. Aujourd'hui, l'environnement, c'est très important. Et je crois que nous sommes en train, en tout cas, de répondre aussi à un certain nombre d'attentes. Et je crois aussi qu'il est important de rappeler que ça soulage, et ça va soulager les lignes actuelles, notamment, c'est abordé concernant le PR. Je crois que c'est des projets qui ne peuvent être que complémentaires par rapport aux lignes de TGV. Je dirais un mot sur la gare, mais comme c'est le sujet après, je reviendrai après sur le sujet de la gare.
Une contribution derrière. D'abord, derrière, monsieur. Gardez le micro, il y en a
d'autres. Merci. Jean-Paul Bourré de l'association, pour notre avenir. J'attendais patiemment le débat sur les gares d'après, mais comme plusieurs ont évoqué le sujet, notamment Jean-Denis, je me permets en quelques secondes de confirmer l'entretien que nous avons eu avec Jean-Denis Gévelin, à qui nous avons promis le dossier intégral de cette plateforme multimodale et internationale de fret qui pourrait se situer sur la base de travaux qui sera libérée en 2017 par Orpia. Donc, je la fais très courte pour le dire, puisque nous interviendrons bien entendu dans le cadre de ces rencontres. Il y a une urgence, cependant. Je suis satisfait que plein de gens aujourd'hui disent « c'est un beau projet, ça fait 2 ans et demi que nous le portons ». Il y a une urgence parce qu'en 2017, Orpia doit libérer l'intérêt. Et nous avons l'aubaine de pouvoir conserver les infrastructures qu'elle a construites pour pouvoir accueillir précisément le maillage train, autoroute et aéroport. À une heure de Sète, pour lequel la région a beaucoup dépensé d'argent du port, mais également à une heure de l'Ardoise, à 1h30 de Gênes, 1h30 de Barcelone, on est à égale distance, pardon, des deux. Même les Romains avaient vu que Nîmes était au centre de tout. Il passe tous les jours 110 000 tonnes de fret dans le couloir rhodanien de Nîmes. Nous prétendons, sur la base d'études de professionnels, pouvoir en capter 300 000 par an. Deux éléments, c'est 6 000 emplois créés avec un bassin d'emplois qui souffre et qui pourrait immédiatement trouver du travail aux jeunes qui seraient formés immédiatement dessus. C'est immédiatement répondre à des questions écologiques, parce que dans le reportage tout à l'heure, on évoquait la nécessité de mettre les 18 000 camions que vous évoquiez tout à l'heure sur les rails, et ça intègre précisément le projet EuroCarrette, qui est un projet européen que nous avons, comme
convaincus de ne pas se faire sur Marseille et Bernim, et où sur ces bases-là, tous les élus de la Grande Bretagne ont par contre, je ne vais pas être en train de vous dire que c'est à peine 15% du projet, concernant ce qu'on nous a dit en disant, mais c'est à long terme, on a le cap. Non, on n'a pas le cap. Parce qu'il faut immédiatement prendre des décisions, et là, on est conscient, précisément, des compétences de développement économique. On veut prioriser l'emploi. Deuxièmement, on est dans le cadre de l'après-COP21. Ce sont des questions écologiques qui sont posées. Trois, on est dans l'aménagement du territoire et bien entendu dans la question des transports qui est évidemment. Il y a urgence donc à ce que la région prenne l'initiative d'une rencontre avec l'Aglo, la mairie de Nîmes, parce que tout le territoire qui est actuellement occupé par la base de travaux est sur Nîmes et qu'on peut utiliser la puissance de l'établissement public foncier régional pour immédiatement capter les terrains sur la base de la délégation du droit de taxe, ce qui permettrait à aucune collectivité de n'avancer quelques deniers que ce soit, puisqu'à la fin, à la sortie, la gare de fret qui serait construite le serait par les gros chargeurs, en disant qu'une gare de fret coûte 15 fois moins que la gare de Manuel qui aujourd'hui n'est en aucun cas financée contrairement à ce qu'on nous indique, parce qu'on nous l'a fait à la méthode Coué, en nous disant que soi-disant les 160 hectares seraient déjà occupés, ça n'est pas vrai. Mais par contre, installer cette plateforme internationale de fret ferait de Nîmes le sixième maillon essentiel du transport de fret à l'échelle du pays et permettrait d'être un véritable poumon économique. Et qui nécessiterait évidemment, dans le cadre des nouvelles prérogatives de la région, de jumeler l'aéroport de Nîmes avec celui de Montpellier. Je rappelle que Montpellier peut accueillir des longs courriers, mais pas des gros porteurs. À Garonne, avec une piste neuve, on peut le faire. Pour la petite histoire, on a même accueilli des Antonov, c'est dire si on peut accueillir des gros porteurs sur cette plateforme-là. Cela dit, et je conclue vraiment, il y a un choix à faire. Celui de la spéculation immobilière ou celui du développement économique, parce qu'au fond, c'est ça qui fait que les décisions ne sont pas prises aujourd'hui, en tout cas sur notre localité. Merci.
Alors, je fais juste une toute petite précision. Il se trouve que je suis président de l'établissement public foncier régional et on me demande souvent où est-ce qu'on en est par rapport au terrain à Manuel et sur votre cas. Je confirme aujourd'hui que pour l'instant, l'établissement public foncier régional n'a acheté aucun terrain à Manuel. Et aussi, il y a une convention d'anticipation. Il y a une convention d'anticipation et il n'y a pas eu d'achat pour l'instant. Alors, je vous indique simplement qu'aujourd'hui, les propriétaires sont tous très pressés de vendre.
Juste, je veux revenir, on reviendra tout à l'heure sur la gare TGV. Je ne suis pas venu là pour polémiquer, Jean. Mais quand même, je ne peux pas te laisser dire, aujourd'hui les crédits étaient inscrits, ils sont toujours inscrits. Je n'ai pas besoin d'accompagner Mme Delgado. Le corridor ferroviaire, c'est 60% de fonds européens. Ce n'est pas nous qui avons déprogrammé la ligne Montpellier-Perpignan. Il faut la réinscrire, mais pas en 10 ans, on fera cette ligne en 2025-2030. Les crédits inscrits le sont pour la durée de la mandature et sont liés au plan Juncker. Donc je dis très concrètement que si on veut retrouver un peu de cohérence, il reste 150, 160 km de voie à faire entre Montpellier et Perpignan, et qui serait quand même un peu dommage de se passer de ces 60% de crédits européens, et idem pour Toulouse, quel choix a été fait pour arriver, excusez-moi l'expression, dans un cul-de-sac, parce qu'après Toulouse, qu'est-ce qu'on fait? Et qui plus est, quand on construit, on a le courage de construire une nouvelle région, Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, la moindre des choses, c'est de faciliter les échanges entre les deux plus grosses agglomérations que représentent Montpellier et Toulouse. C'est tout ce que je dis. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'accompagner Mme Delga. Les crédits sont là, il suffit simplement de les consommer si on a un peu de temps des politiques.
Merci. Est-ce qu'il y a encore une intervention tout au fond? Je vois deux mains qui se lèvent sur le thème des grandes vitesses. Oui, on est encore sur la grande vitesse et après on bascule sur les gares. On a déjà parlé.
Fabienne Grifol, Gare Tourisme. Je voulais juste apporter un petit éclairage sur l'enjeu économique et touristique pour la grande région dont nous formons actuellement. Et de dire qu'au niveau, nos touristes sont tous des citoyens, ils sont tous sensibles au développement durable, ils sont prêts à pouvoir prendre le train, et le TGV est une porte d'entrée d'excellence hein, sur notre région, notamment par la vallée du Rhône. Et je crois qu'au-delà de ça, tout ce que tout à l'heure Laurent Pellissier le précisait et d'autres, une fois que le touriste est là, il a difficulté à pouvoir se véhiculer et à pouvoir continuer sa découverte. Donc il faudra certainement qu'on puisse réfléchir tous ensemble entre les liaisons, entre les sites touristiques du département et au-delà donc, des autres départements voisins. Sur les entrées aussi, je pense par exemple à l'aéroport de Montpellier où quand vous voulez aller au Gros-du-Roi en arrivant à l'aéroport de Fréjorgues, c'est quasiment impossible, il faut prendre à ce moment-là un taxi. Donc où est l'intérêt de prendre un taxi à plus de 50 euros quand vous avez payé un billet d'avion à un tarif assez raisonnable. Voilà, donc également dans les équipements qu'on peut prévoir dans les trains, il faudra aussi qu'on puisse placer le vélo, par exemple, puisque le département du Gard se positionne leader en matière de développement autour du vélo, mais aussi sur la randonnée. Donc je pense que tous ces moyens-là devront être étudiés lors de ces assises et donc j'apporterai avec ma structure la réflexion sur le site des assises. Merci.
Très bien. Derrière vous, juste une personne.
Oui, Bernard Clément, vice-président du SCOT Sud-Gard, en charge des transports et de la mobilité. Quelques remarques, tout d'abord. On aborde de façon thématique avec cinq thèmes donc précis ces assises, en ne perdant surtout pas de vue que ces sujets sont indissociables les uns des autres, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est justement à partir de ce constat, on est enfin parvenu à mettre en place, en tout cas c'est en cours, un syndicat mixte départemental des transports. Ce syndicat mixte départemental des transports ne pourra connaître son efficience que si le conseil régional y est présent. Et cela doit être vrai dans tous les départements. Et non pas simplement pour faire le constat de ce qui existe, mais pour être porteur de propositions, justement, sans aucun doute, au terme de ce travail qu'on est en train de mener, et les participations de l'ensemble des collectivités au débat. Voilà. Deuxième remarque concernant le fret. Toutes les propositions peuvent être intéressantes. La plateforme travaux, effectivement, pourrait être utilisée dans cet esprit. Mais ne perdons pas de vue quand même que les différents plans fret qui se sont succédés ont fait qu'aujourd'hui, nos triages sont vides. Et qu'à Nîmes, il y a un superbe triage qui est prêt à être utilisé et qu'avec la construction de la ligne TGV, justement, a été prévu et réalisé un raccordement au triage de Nîmes. Il n'en reste plus qu'à y faire circuler des trains de fret et à le mettre en mouvement. Là aussi, j'appelle à ce que l'on mette en débat, dans la réflexion, cette véritable question qui concerne à la fois l'aménagement du territoire, qui concerne l'économique et le social. Voilà. Et puis, dernier point, sans aucun doute d'autres mériteront d'être évoqués, concernant le TER notamment, alors je laisse de côté le débat sur la gare manuelle. Il faut quand même qu'on prenne en compte que les jeunes qui arriveront d'Alès pour prendre le TGV, s'il faut qu'ils aillent à la gare de Nîmes et puis reprendre un autre train pour repartir en manuel ou prendre un taxi ou un bus, mais bref, en fait, il faudra pour aller à Paris, il faudra une heure de plus. Voilà, pour ce qui vous concerne, en tout cas. On ne va pas faire de la grande vitesse. Je fais cette remarque parce qu'elle est valable pour d'autres trajets aussi. Donc ça, c'est un point important. Mais pour les TER, la question essentielle, et j'en termine là, la question essentielle, parce que c'est un lien avec le TGV, je veux dire, indissociable, c'est la tarification unique, c'est le développement du mode de tarification du type carte à tout, mais pour l'ensemble des agglos de ce territoire, je dis bien l'ensemble, puisqu'aujourd'hui, c'est région Languedoc aussi en Midi-Pyrénées. Et donc, c'est une harmonisation, mais c'est surtout, au travers du syndicat mixte départemental, la mise en œuvre d'une véritable complémentarité des modes et l'arrêt de la mise en concurrence des différents types et modes de transport. Et dernier point, on s'est engagé un jeudi hors. Voilà, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'il y a la diversité dans cette salle. Pour ce qui me concerne, j'ai soutenu l'idée qu'il fallait se battre pour ne plus fermer un seul kilomètre de ligne ferrée dans cette région et dans les autres. Et mener ce combat, c'est déjà avancer. Et non seulement s'en tenir à ça, mais y compris mener des études prospectives sur les besoins de développement du transport en commun. Je prends qu'un exemple dans ce département, le secteur de l'abonnage, où il y a 25 000 véhicules par jour qui circulent exactement où existait une voie ferrée où circulaient des trains. Donc, c'est pas ça qu'il faut réfléchir. Donc, ne pas perdre de vue qu'il est encore possible aujourd'hui, dans le cadre de la complémentarité, justement, la réflexion avec la Gaule de Nîmes est indispensable. Comment on va mener ensemble la réflexion sur le transport qui va traverser l'agglo et le transport qui va desservir les périphériques.
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe au thème suivant, qui était donc les gares, qu'on a déjà bien abordé, mais les gares, c'est pas seulement les gares nouvelles, c'est aussi les gares existantes, leur accessibilité, leur qualité, leur équipement. Donc s'il y a des questions sur ce point, j'en vois trois là-bas, de ce côté.
Je voudrais revenir sur la façon dont se conduisent les pouvoirs publics dans ce genre de garde annuelle. Une seconde. On fait à la vérité de nous croire que tout est bouclé. À la région, on dit rien de bouclé, on vous écoute. Au département, on dit ah, attendez, il y a des engagements qui sont. Bref, le citoyen normal n'y comprend rien et c'est de l'abus. Je voudrais revenir sur l'histoire de Manguel. Manguel, cité dortoir, alors qu'on parle de Garonne, pour l'activité, à côté des zones économiques, alors qu'on parle de la ligne du Gros du Roi qu'il faudrait connecter pour aller à la plage. Bref, on a d'autres solutions que de faire une gare à Manguel, dont tout le monde a un groupe d'interrogation, d'autant plus que la SNCF a dit qu'il fallait faire passer les trains TGV pour prendre les clients dans les villes. Donc les trains vont continuer à passer en gare de Nîmes, sans. Alors pourquoi faire une gare à Manguel? Pour simplement faire plaisir à un certain groupe de gens, on n'y comprend rien. On sait que ça coûte 12 millions. Bref, quel est le sens de tout ça? On comprend très bien que la ligne LGV soit faite pour détourner une partie du trafic, puisque ça doit aller à Barcelone, et qu'il y a des trains qui font Barcelone-Paris sans s'arrêter à Nîmes. On comprend très bien que cette ligne va décharger tous les sillons de la ligne normale Montpellier-Nîmes, et tant mieux. On aura au moins 30 ou 40 trains de marchandises tous les jours qui passeront à l'extérieur et de Nîmes de Montpellier. Bravo! Mais pourquoi s'engager sur des schémas qui coûtent un argent fou, que ce soit à la Rogère ou à Manuel? C'est absurde.
Merci. Ici, derrière monsieur, et puis.
Oui, en fait, Francisco, citoyen de Nîmes, et accessoirement membre de plusieurs associations citoyennes de Nîmes, c'est-à-dire non politiques. Je dirais que ce débat sur la gare de Manuel ou autre, la passion l'emporte sur la raison. Si je suis à droite, je suis pour Manuel. Si je suis à gauche, je suis contre Manuel. C'est un peu le schéma caricatural de Nîmes. Caricature, évidemment. Attendez, laissez-moi parler. Donc ce que je voulais dire, c'est que cette gare de Manuel, la passion l'emporte sur la raison, parce qu'on ne s'est pas posé la question essentielle de sa pertinence, à savoir à quoi elle va servir. Quand est-ce que la ligne va être connectée sur l'Espagne? X interrogation, il n'y a aucun financement, on ne sait pas lorsque le prolongement sera réalisé. Et tant que le prolongement sur l'Espagne n'est pas réalisé, franchement, cette gare ne sert strictement à rien. Elle ne sert qu'à faire arrêter quelques TGV pour engranger des royalties pour SNCF ou un réseau, puisque les TGV et les trains fret qui passent sur la ligne TGV payent des royalties. Ils payent simplement plus cher que passant par la ligne traditionnelle. Voilà. Donc, une question que je pose, vous ne pourrez pas me donner la réponse, mais quand est-ce qu'on connectera sur l'Espagne, sachant que la future connexion coûte 6 milliards. 6 milliards, ça ne se trouve pas sur le salon de cheval. Personne aujourd'hui n'est en mesure de financer ce prolongement, quoi qu'on en dise. J'ose espérer que l'Europe pourrait financer 60%, mais je reste un peu sceptique quand même sur ces chiffres. Parce que ça se saurait si on pouvait le financer très vite. Donc je pense que le prolongement sur l'Espagne est très 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 lointain. Et de ce fait, la gare de Manduel n'a strictement aucune pertinence. Financer une gare aujourd'hui avec un protocole de financement à 95 millions d'euros, avec bien sûr chacun paye sa quote de part, la région, l'État, la SNCF, etc. Mais les frais annexes, on n'en parle jamais. Il faut créer des accès pour aller à cette gare. Tous les chiffres circulent. L'agglomération 17 millions. Le département nous a dit 55, 80, on ne sait plus, on s'y perd. Je rejoins un peu ce que disait le collègue tout à l'heure. Il faudra faire des voies à quai sur la ligne actuelle Tarascon 7 pour pouvoir desservir cette future gare de Manduel. On ne sait pas combien ça va coûter. Les transports en commun pour desservir cette future gare de Manduel, il faudra bien qu'on paye. À quiconque qui paye. Qui? C'est nous, les contribuables. Donc chacun dépense un petit bout de bifteck, la région, l'agglo, chacun voit que son bout de l'ordinette, mais à la fin, c'est le contribuable qui paiera 200 à 250 millions pour une gare qui ne servira qu'à attirer, paraît-il, 1 million de voyageurs. Extraordinaire. Mais ils viendront tous, les voyageurs. Ils viendront de la gare de Lille-Centre. Ils viendront pas d'ailleurs. Alors, il ne faut pas se leurrer. Alors, on peut rêver sur des aménagements pharaoniques de ces 160 hectares de Manduel. Mais qui va aller s'installer là-bas? Qui va aller s'installer là-bas? Je me pose la question. Il y a des intelligents qui nous diront qu'il y a beaucoup de perspectives sur ce sujet. Les quantités de gens intéressés, j'aimerais les connaître et les rencontrer éventuellement. Merci.
Comment on fait le Garonne pour venir à Nîmes? S'il n'y a pas d'accord, on va pas. dit un peu derrière, pas.
quelques éléments simplement parce que j'ai cité, tout ça, j'ai cité de trouver quelques réponses à Laurent de Bois, dans un mythe plutôt qu'à des qualifiés socialistes et visionnaires. Alors, il faut simplement un petit devoir de mémoire. En 2009, lorsqu'il s'agit de lancer la grande vitesse dans cette région, il manquait une signature, celle du maire Lamine, qui était à l'époque président de la loi. C'était juin 2009. C'est pas vieux, mais c'est l'histoire, ça. En 2012, quand on a signé la convention des gares, qui était une convention séparée, qui aurait pu être une ligne, il y a manqué une signature, celle du conseil général du gare. Parce que c'est un choix volontaire de ne pas participer à ce que nous considérions comme une erreur de faire une gare en même. Je voulais simplement vous dire que moi je ne sais pas si au final ça sera ou pas, parce que je ne sais pas aujourd'hui quel est le niveau d'engagement juridique et financier et quelle est la marge de manœuvre que l'on peut avoir. Je connais la volonté de Carole Delga, que j'ai jugé à l'élection d'État, d'étudier la situation pour voir ce qui peut être fait. Mais ce dont je suis sûr, et j'aimerais me tromper pour les mémoires, parce que je parle ici d'un delà, ce dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que le premier effet de la relation de gare en Angleterre, c'est d'envoyer les TGV sur la Mongère, sur Montpellier. Parce que si demain il n'y a pas de gare en Angleterre, il n'y aura pas de TGV qui s'arrêtera à la Mongère. Et que l'enjeu est là. Et donc, les mémoires, ils verront passer les trains. Ils ne le prendront pas. Et le deuxième effet, c'est un risque. Et obtenir de la SNCF la garantie que la gare, que les trains s'arrêteront. Demandez combien de TGV passeront par jour. Et combien s'arrêteront en Angleterre? Vous croyez qu'on arrête le TGV toutes les 20 minutes? Vous croyez ça? Bien, vous tromperez. Et le deuxième effet, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le contournement Nîmes-Montpellier, le contournement mixte, c'est le premier tronçon mixte fret voyageur. Bien, la conséquence, si demain la gare de Angleterre accentue le nombre de TGV qui passent au détriment de la gare centrale, c'est que pour les raisons d'occupation de l'océan, bien, c'est le fret qui reviendra à Nîmes. À la sortie, on aura fait tous ces investissements pour rien.
C'est moi qui avais le micro, je vais être assez rapide, car je vous ai vu dans la salle. Et moi, j'aimerais juste rappeler que, quel que soit le financeur, que ce soit l'Europe, l'État, la région, le département, les communes, les agglos, c'est nous, citoyens, qui payons. Donc, après, quand on dit un tel est visionnaire, un tel, etc., donc nous, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que vous nous présentiez des scénarios avec des éléments suffisamment importants pour que nous, on puisse aussi se faire une idée plutôt des analyses. Et pas engager sans arrêt des sommes importantes comme ça. Juste une dernière remarque, on a parlé des intermodalités, on n'a pas parlé trop de transport doux et de ce qui peut être fait pour que, justement, ben, le vélo, ça soit une solution quelquefois pour aujourd'hui.